Vous écoutez le son de la Terre. Bonjour et bienvenue dans votre balado qui traite de nouvelles agricoles, le son de la terre, propulsé par la terre de chez nous. Aujourd'hui, on vous propose le parcours inspirant d'un nouveau venu dans le monde de la viticulture qui a une histoire d'implantation hors du commun. Cette histoire, c'est celle de Martin Giroir du domaine Giroir, un vignoble relativement récent en Estrie qui a bénéficié de la générosité des membres de sa communauté pour surmonter une très difficile épreuve. Je l'accueille en deuxième portion d'émission. Mais dans un premier temps, avec Myriam Laplante, journaliste à la Terre de chez nous, nous allons traiter de quelques sujets qui ont marqué l'actualité agricole des dernières semaines. Il sera notamment question de travailleurs étrangers temporaires qui veulent leur résidence permanente, de zones grises dans le règlement sur les exploitations agricoles et d'une vague de cambriolage de vergers en Montérégie. Bonne écoute! Pour faire un rapide survol des actualités agricoles des dernières semaines, j'ai avec moi Myriam Laplante. Salut Myriam.
Salut.
Tout d'abord, on va parler d'un sujet qui est en lien direct avec les solutions à la pénurie de main-d'œuvre dans un dossier qui est paru le 7 septembre dans les pages de la Terre de chez nous. Il était question de ces travailleurs étrangers temporaires, qui veulent justement plus que leur statut soit temporaire et qui font une demande de résidence permanente. Myriam, tu en as rencontré quelques-uns dans le cadre de ton reportage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur expérience?
Ben oui, tout à fait. Alors, moi, je me suis entretenue avec Felipe Oporto Peña. Lui, ça fait 17 ans qu'il travaille chez Guy Pouliot sur l'île d'Orléans. Il cultive des fraises framboises. Et au moment où je me suis entretenue avec lui, ben, il s'apprêtait à recevoir sa résidence permanente. Donc, lui, en fait, en 2015, il a dit à son patron qu'il était tanné. Il était tanné de voir sa famille seulement 4 mois par année. Ça faisait déjà 10 ans qu'il venait au Québec.
Parce qu'il faisait le voyagement.
Il faisait le voyagement avec le Mexique.
OK.
Et puis, il trouvait ça dur. Puis son employeur, ben, il a dit qu'il allait l'aider. Puis un an plus tard, sa femme et ses enfants sont venus avec permis de travail, permis d'études, pour venir rester avec lui, dans le fond.
OK.
Aujourd'hui, c'est un peu une success story, son affaire, parce qu'aujourd'hui, la famille s'est acheté une maison près des Chutes Montmorency. Ils ont pas encore la dite résidence, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Les enfants vont à l'école au cégep. Il y a même un de ses fils qui veut faire de la comptabilité à l'université. Puis c'est vraiment, tu sais, comment dire, le parcours est laborieux, mais...
C'est ça, le parcours n'a pas été facile pour lui et pour sa famille. Là.
Non, du tout. Parce que c'est ça, tu sais, pour les travailleurs étrangers, ce qui est difficile, notamment, c'est l'examen de français.
OK.
On leur demande à eux d'avoir un niveau 7. Niveau 7, c'est comme intermédiaire plus, mettons, intermédiaire début d'avancée.
OK.
Mais en tout cas, l'UPA pense qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un niveau si élevé.
C'est ça, pour travailler à la ferme, est-ce que c'est nécessaire?
L'UPA dit qu'un niveau 4, c'est suffisant. Juste pour communiquer, se dire les consignes de base, être capable de se comprendre, dire certains mots, oui, mais pas besoin d'avoir un niveau comme le tien et le mien. Mm-hmm. Donc, c'est ça. L'UPA est en train de faire des démarches là-dessus. Là, parce que, ben voilà.
Pour essayer d'adoucir un peu cet élément-là.
Ouais.
Oui, il y a l'examen de français, ça tu t'en as parlé, puis je crois qu'on va y revenir un peu plus tard, mm-hmm. Mais il y a aussi les coûts qui sont reliés à une telle demande.
Oui, tout à fait. Alors, dans le cas de Felipe, on parle de 12 000 $ à peu près que ça lui a coûté, ça lui coûte à lui et sa famille pour immigrer au Québec. Il y a un autre cas, c'est Valentine Alfonso Galavis Ramirez. Lui, il travaille au potager Montrouge en Montérégie. Lui, c'est aussi particulier, son histoire, parce que ses patrons, en fait, ils disent que, comment dire, pour eux, faire venir Valentine et sa famille ici puis les faire rester ici, c'est le chemin à prendre pour se retirer un jour de la ferme et savoir que leur relève est vraiment épaulée.
OK. Donc, d'avoir quelqu'un de fiable qui était là, qui peut assurer la transition, si
oui,
on veut.
Oui, puis Marielle Farley me disait que pour elle, Valentine, il fait tout. Il est capable d'avoir tous les rôles dans la ferme. Il a vraiment touché à tout. Fait qu'il peut même... à la limite, il gère la comptabilité s'il faut. Là,
c'est un peu la raison pour laquelle les propriétaires ont décidé de je ne sais pas si on peut dire financer un peu la venue de leur employé. Là.
Tout à fait. Fait que dans leur cas, à eux, ils ont décidé de payer de leur poche la venue de cette famille-là. Puis ça leur a coûté à date entre 15 et 20 000 $. Fait que c'est ça, elle me disait, puis je la cite, là. On est motivé au point où on paie tout et c'est sans attache. C'est un risque qu'on prend, mais je veux qu'il reste ici pour les bonnes raisons, pas parce qu'il a une dette envers nous. Donc, mais elle précise qu'elle ne le ferait pas pour tous ses employés. Là. C'est vraiment... Elle n'aurait pas la possibilité de le faire parce que, premièrement, c'est coûteux.
Ouais.
C'est coûteux, on vient de le dire, mais il faut augmenter le salaire de cet employé-là.
C'est ça aussi, c'est que c'est coûteux à long terme.
Oui.
Quand on considère que le salaire qu'il leur est offert à leur retour au Mexique, par exemple, c'est quelque chose, c'est une somme qui est bon, peut-être pas faramineuse, mais c'est une somme qui est quand même assez intéressante,
oui.
Contrairement à le coût de la vie au Québec. Là.
Non, tout à fait. Puis c'est pas juste le faire vivre lui, cet employé, c'est lui puis sa famille. Là.
Mm-hmm.
Il faut. Fait qu'en général, ce qu'ils font les employeurs, c'est qu'ils leur donnent des postes à plus haute responsabilité, ce qui leur permet d'augmenter leur salaire pour leur permettre de vivre correctement ici avec leur famille.
Puis même au niveau des postes, est-ce qu'il faut qu'ils fassent la demande? Ça, j'avais vu quelque part, il faut qu'ils fassent la demande au gouvernement pour pouvoir changer de poste à l'intérieur de la ferme.
Oui, à l'intérieur de la ferme, parce que c'est en fonction de leur permis de travail.
Okay.
Quand ils viennent, c'est pour un poste en particulier, de ce que j'ai compris. Là. Et par la suite, il faut faire une demande pour avoir changer de catégorie de poste, en fait.
Uh-huh.
De bas salaire à haut salaire.
Puis... Bon, on parlait tout à l'heure des niveaux de français du demandeur à proprement dit, mais je disais aussi qu'il y avait une réforme du programme d'expérience québécoise qui faisait aussi que ça pouvait devenir très compliqué aussi pour l'entourage.
Oui, tout à fait. En fait, depuis 2021, les conjointes de ces travailleurs-là doivent aussi avoir un niveau de français de niveau 4 pour pouvoir venir au Québec.
OK, pour avoir la résidence permanente. Donc,
ouais.
ils doivent parler français aussi. C'est plus juste le demandeur, c'est l'entourage aussi.
L'entourage aussi, la conjointe qui est sur la demande. Là. Donc, ça vient encore complexifier davantage tout le processus là, pour ces familles-là qui veulent immigrer au Québec.
Et puis, au-delà de toute la question du français, on parle d'une démarche qui peut prendre à peu près combien de temps avant de réussir à obtenir sa résidence permanente?
Mais dans le cas de Valentine, lui, ça fait 4 ans à peu près qu'il a entamé les démarches. Mais Felipe Oporto Peña, lui, c'est beaucoup plus long, là, depuis 2015 quasiment, là, puis on est en 2022. Donc
c'est un processus qui est quand même assez long. Ouais. Puis l'élément bloquant, bon, on parlait on parlait notamment des tests de français, là, donc qui demandent un niveau assez élevé de connaissances. Mais je pense qu'il y a un autre twist aussi là, dans cette question-là du test de français.
Oui, exact. En fait, c'est que les examens sont corrigés en France. C'est pas corrigé au Québec. C'est des examens de français, mais qu'on envoie en France se faire corriger.
Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Ou?
Oui, en fait, donc jusqu'en juillet 2020... On avait besoin d'une attestation de réussite d'un cours de français qui provenait d'un établissement d'enseignement québécois. Ça pouvait être utilisé pour postuler au programme de l'expérience québécoise. Ça fonctionnait.
Donc, ça pouvait être un cours de cégep
ouais.
ou un cours qui pouvait... OK.
Exact. Reconnu ici une université ou peu importe. Puis, je rappelle juste que le PEC, là, le programme de l'expérience québécoise, c'est autant pour les travailleurs étrangers temporaires que pour les diplômés du Québec.
Okay. OK.
Donc, un étudiant étranger qui vient ici faire 4 ans d'université, il applique au PEC pour avoir sa résidence permanente, même chose qu'un TET.
Donc, il doit passer le même examen, ça ne sera pas reconnu, même s'il a fait 4 ans d'université ici.
Exact. Okay. Et, mais en fait, il y a eu une enquête de l'unité permanente anticorruption parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des cas de fraude dans ces tests de français, des institutions québécoises qui donnaient ces tests-là un peu... comment dire, pas gratuitement, mais quand ils ont évalué le niveau de français de certaines personnes, certains étudiants qui, soi-disant, avaient le bon niveau, ça ne concordait pas.
Ça concordait pas.
Du tout. Ça ne fonctionnait pas. Alors, ils ont réformé le PEC et ils ont décidé d'enlever les attestations québécoises. Ce qui fait que ben maintenant, ils se sont tournés vers des tests, comme ils appellent, normalisés, des tests internationaux.
De français international.
De français international, exact, qui sont corrigés en France. Mais bon, Valentini me disait que, ben par exemple, il dit, pour la compréhension, c'est pas trop pire, parce qu'on est capable de se débrouiller. Mais pour l'expression orale sur laquelle ils sont évalués, ils sont habitués à parler québécois. Fait qu'elle dit, il me dit, par exemple, le mot « bonnet », ça va être accepté, mais le mot « tuc », non. Mais nous, sur les fermes, on ne sait pas c'est quoi un bonnet, là. Mm-hmm. C'est un peu ça,
non,
là.
C'est ça. C'est pas une autre langue à part entière, mais il y a quand même des spécificités au Québec qui sont très loin de ce qu'on peut retrouver en France.
Tout à fait. Et les travailleurs n'en ont pas besoin de ces spécificités-là pour se faire comprendre sur les fermes.
En tout cas, chose certaine, on souhaite la meilleure des chances à tous les travailleurs étrangers qui désirent obtenir la résidence permanente. Là. Ça a l'air d'un... un parcours du combattant, mais ultimement, j'imagine qu'il y en a plusieurs à qui ça doit sourire.
Tout à fait.
Myriam, tu as attiré mon attention sur un autre sujet. Je dirais qu'on va passer d'un sujet qui est assez complexe au niveau des travailleurs étrangers temporaires à un autre sujet qui est assez complexe, si tu le permets. Donc, il est question ici d'une espèce de zone grise dans le REA qui fait rager certains agriculteurs. Dans un premier temps, peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que le REA et qu'est-ce qu'il en est de cette faille-là, si on veut?
Oui, bien sûr. Alors, le REA, c'est le Règlement sur les exploitations agricoles. Donc, on se rappellera en 2004 que le gouvernement a mis en place ce règlement-là. Entre autres, ça crée un moratoire sur les superficies en culture. On ne peut pas agrandir une ferme, les superficies cultivables dans les bassins versants dits dégradés. Une question de phosphore, on ne peut pas les agrandir. Puis, à la base, en 2004, le gouvernement permet, une des clauses du REA, c'est, par exemple, pour ne pas cultiver proche du cours d'eau, tu t'installes une bande riveraine. Il y a une superficie que tu ne peux plus cultiver à cause de cette bande riveraine. Donc, on te donne le droit d'aller prendre cette superficie-là et la cultiver ailleurs.
La greffer, si on veut.
La déplacer ou la greffer ailleurs, exact. Et donc ça te permet un échange de parcelles comme ça. Mais là, on se rend compte que depuis quelque temps, il y a des producteurs qui utilisent cette règle-là à d'autres fins. En fait, ils font un échange de parcelles, mais ils achètent une terre, par exemple, puis ils vont transférer le droit de culture de cette nouvelle terre-là vers leur ferme. Fait qu'au lieu de, mettons, cultiver cette nouvelle terre qu'ils achètent, ben ils l'abandonnent, ils transfèrent le droit de culture, puis là, ils décident de, par exemple, défricher la même portion
équivalente
sur la ferme ou proche de la ferme. Et en fait, il y a des producteurs que ça énerve parce que, justement, je me suis entretenue avec Luce Bisson, qui est en Chaudière-Appalaches, à Sainte-Sabine. Puis elle, dans son coin, le prix des terres était à peu près 1 000 l'acre au lieu de 4 000 à 7 000 en Chaudière-Appalaches, pas très loin. Et c'est ça, elle voit ses terres.
Donc, elle voit des terres se faire acheter.
Puis quasiment, carrément reboisées. Là. Des fois, ça arrive qu'ils les abandonnent puis ils les reboisent parce que le gouvernement du Québec offre, le ministère des Ressources naturelles offre une subvention pour le reboisement. Fait qu'ils vont chercher de l'argent en faisant ça, en plus. Mm-hmm. Mais ben, elle crée un peu au meurtre. Là. Elle déplore en fait cette façon de faire-là parce que, voyons, c'est ses ancêtres qui ont défriché ces terres-là puis elle est en train de les voir se faire reboiser dans certains cas.
Puis est-ce que c'est un phénomène qui est marginal ou...
Ben, quand même. C'est-à-dire que j'ai parlé à Daniel Bernier, là, ici à l'UPA, et puis il me disait que c'est quand même rare. On n'en voit pas beaucoup, mais l'affaire, c'est que quand on découvre un cas comme ça, ça fait grand bruit dans le milieu agricole. Il y a comme, évidemment, il y en a qui ne sont pas gênés de le faire, il y en a qui trouvent que c'est honteux de faire ça. Mm-hmm. Donc, ça crée grand bruit et surtout quand la terre est reboisée.
C'est ça, c'est le genre d'élément dont on n'a peut-être pas non plus, on a de la difficulté peut-être à saisir l'ampleur parce qu'il y a sûrement certaines personnes qui le font sans...
Exact.
Justement, sans faire trop de cas. Là.
Trop de vagues, exact. Puis, ben, mais quand même, le gouvernement était sensible à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des représentations qui ont été faites, le ministre Lamontagne a été rencontré. Puis Luce Bisson, en fait, elle est partie sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que son histoire un peu s'est fait découvrir. Et enfin, son histoire, c'est pas elle qui le vit, mais elle raconte ce qu'elle s'est fait dire autour d'elle. Et c'est ça, le gouvernement a décidé de limiter à 50 km la distance entre la terre que tu achètes et la terre d'origine.
C'est ça, c'est ce que j'allais demander. Oui, on ne peut pas faire d'une région à l'autre.
C'est ça. Maintenant, avant, c'était possible, mais maintenant, ce n'est plus possible depuis le 1er septembre. On reste dans une portion de 50 km. Mais bon, hein, c'est évidemment, les producteurs à qui j'ai parlé disent que ça ne réglera pas le problème ou très peu. Dans le cas de Luce Bisson, la terre dans son coin qu'elle a vu être reboisée, ben, le producteur, il est en Beauce, il n'est pas très loin, il est en dessous de 50 km. Puis il l'a fait pareil.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de... La zone est très grise, dirons-nous.
Oui, c'est ça. La zone est très grise. Le gouvernement fait des... Ben, visiblement, c'est ça. Ils sont au courant de la situation. Là.
Oui.
On va voir ce qui va se passer avec ça.
Exact.
Et puis bon, on disait qu'on savait pas trop si c'était quelque chose qui était... on pense que c'est quelque chose qui est marginal. On pense que c'est quelque chose qui, justement, qui se discute pas tant que ça. Mais est-ce qu'il y a des craintes, justement? Tu disais que Mme Bisson faisait état de ça sur les médias sociaux pour un peu propager l'information. Mais est-ce que ça peut pas être un couteau à double tranchant aussi? Puis il y a des gens, justement, qui voient cette façon de faire-là. Puis...
Tout à fait, tout à fait. Le président de la Fédération de l'UPA, Chaudière-Appalaches, James Allen, il disait justement qu'il y avait peur que la médiatisation de cette façon de faire ait un effet inverse à celui escompté, en fait. Il dit que Luce Bisson, quand elle est sortie sur les réseaux sociaux, lui a su qu'il y a des producteurs qui s'étaient renseignés sur la procédure d'échange, non pas pour empêcher le problème, mais au contraire pour y participer.
donc c'est un sujet...
D'après moi, on va en entendre parler dans les prochains temps. Là.
C'est ça. C'est un sujet qui est quand même assez sensible, mais dont on risque d'entendre parler. Dans un autre ordre d'idées, en ce moment, fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, on parle beaucoup des vergers, on parle beaucoup d'autocueillettes de pommes. Dans nos pages de la Terre de chez nous, on a traité de la problématique des vols de fruits dans les vergers dernièrement. Mais là, c'est un tout autre type de vol dont il est question, Myriam.
Oui, en fait, c'est du cambriolage dans les boutiques ou chez chez les producteurs de pommes. Là, il y en a eu une couple là, dans les derniers temps. Là, je pense à Philippe Beauregard, au potager Montrouge. Il dit qu'ils ont défoncé la porte d'en arrière, ont volé de l'argent dans les tiroirs-caisses dans la nuit du samedi 10 au 11 septembre.
C'est dans le coin de Rougemont,
ça. Dans le coin de Rougemont, exactement. Pas très loin non plus, Hugues Lavoie, là, la pommeraie d'or, qui a subi la même chose quelques jours plus tard, la nuit du 16 au 17 septembre.
Puis on parle de montants qui ne sont pas nécessairement substantiels non plus.
Ben non, 400 à 500 $ là, ce qu'il y avait dans le tiroir caisse. Là, ils se sont vraiment... ils avaient besoin apparemment de petits montants, je ne sais trop.
Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une vingtaine de plaintes qui ont été déposées dans les dernières semaines à la Sûreté du Québec pour des événements comme ça dans le coin de Rougemont.
Ouais.
C'est une véritable plaie. Là.
Complètement. Puis c'est pas juste les vergers. Là. Apparemment, il y aurait des salons de coiffure, des ateliers mécaniques. Mais c'est ça, ma collègue Caroline, c'est elle qui a écrit le texte, elle précise qu'il y a plusieurs... La façon de procéder est toujours la même. Les cambrioleurs brisent une fenêtre, pénètrent par infraction dans les établissements, cherchent l'argent comptant. Alors, la SQ et même certains producteurs recommandent au commerce de s'équiper de systèmes d'alarme ou de détection de mouvement et de caméras de surveillance.
Puis, c'est pas la première fois qu'on assiste à ça, à ce type de cambriolage-là.
Non, en 2021, il y avait le même type de vol en série dans le coin de Saint-Eustache, dans les Laurentides. Une productrice... Patricia Daou, du verger La magie de la pomme, a vécu la même chose, mais elle, dans son cas, elle s'est fait déroper d'importantes sommes, sans préciser lesquelles, mais elle dit qu'elle a investi 19 000 $ en équipement de protection par la suite.
C'est ça, elle a décidé de prendre le taureau par les cornes.
Complètement.
D'ailleurs, justement, on parlait de Philippe Beauregard, du copropriétaire du potager Montrouge. Lui, dans son cas, il n'a pas hésité non plus à mettre, on a vu passer sur les médias sociaux, des vidéos des caméras de surveillance qui montrait les malfaiteurs. Là. Donc, il, visiblement, lui aussi, il s'était déjà équipé, mais malheureusement, ça ne peut pas nécessairement tout arrêter. Il y en a qui ont été chanceux, par contre. Il y en a qui ont limité les dégâts en installant justement un système d'alarme. Les gens rentrent et le système d'alarme part et ils se sauvent. Mais c'est malheureux de voir ça pour justement des commerces puis des entreprises qui donnent tout et qui travaillent à la sueur de leur front. Là.
Tout à fait, surtout quand c'est le pic de la saison, comme on dit en bon français.
Exactement. Et sur ce, bonne cueillette. Faut aller les encourager. Donc, merci beaucoup, Myriam, pour ton temps. C'est très apprécié.
Avec grand plaisir, Vincent. À la prochaine.
Merci, salut. La saison des vendanges est déjà bien entamée au Québec et pour marquer le coup, nous avons pensé inviter un viticulteur pour nous en parler. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martin Giroir, qui est copropriétaire du domaine Giroir en Estrie, à Sutton plus précisément, et qui compte environ 14 000 vignes réparties sur 130 acres. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, merci.
Comment ça se passe justement cette saison des vendanges-là jusqu'à présent?
Oui, la saison avance bien. Évidemment, avec la température qu'on a eue cette semaine, le raisin n'a pas beaucoup mûri, donc on devrait commencer nos vendanges probablement ce week-end. Là, qu'est-ce qui est difficile dans les prochains jours, c'est les nuits fraîches qu'on va connaître. On pourrait atteindre des zéros, donc ça devient critique là, pour nous à ce point de température-là.
Donc, il va y avoir un moment où la rapidité va rentrer en ligne de compte aussi, là.
Oui, absolument. Puis on a un système de protection aussi qu'on doit faire fonctionner dans ce temps-là.
Pour s'assurer que ça ne gèle pas?
Exact, exact. C'est de l'aspiration d'eau qu'on a.
OK. Écoutez, de toute façon, on va revenir sur votre oui. installation un petit peu plus tard. Mais dans un premier temps, je voulais avoir une idée de comment c'est venu. Bon, vous êtes un nouveau joueur dans l'industrie. Là. Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là?
Oui.
À moins que je me trompe, là, vous ne provenez pas du milieu agricole ou viticole?
Là. Non, pas du tout. Je viens du milieu alimentaire. Par contre, moi et José, qui est ma conjointe, qui est ma femme, on est des amours du vin depuis toujours. Puis tous les voyages qu'on a fait m'ont réalisé qu'au fil du temps, c'était tout le temps des voyages pour aller visiter des vignobles. Donc, on a fait plusieurs pays en Europe et on est vraiment des amoureux du vin. Puis, on a eu aussi l'inspiration d'un vignoble. Ça vient de mon fils, qui est le plus vieux, qui a une déficience intellectuelle. Puis, on se posait la question, comment intégrer ces jeunes-là, parce qu'on côtoie plusieurs avec les Olympiques spéciaux, comment on peut intégrer ces jeunes-là sur le marché du travail? Puis, quand on a fait le lien entre les deux, c'est là que l'idée du vignoble nous est venue.
OK, donc c'est vraiment, vous avez pris plusieurs passions, intérêts, puis mis ça ensemble et décidé de se lancer là-dedans.
On les a combinés ensemble, exactement.
Et avez-vous mis de côté votre carrière? Vous étiez conseiller en ressources humaines?
Moi, j'ai été 20 ans chez Saputo. J'étais vice-président en ressources humaines à la fin de ma carrière. J'ai pris une jeune retraite chez Saputo après 20 ans. Puis j'ai changé complètement de carrière. Là. Donc, c'est une belle orientation pour moi.
Puis, est-ce que vous aviez déjà été en contact au-delà des voyages et des choses comme ça? Avez-vous fait des recherches un peu au Québec aussi, voir comment ça se passait?
Oui, j'ai fait des recherches, puis j'ai aussi le côté paternel. Moi, mon père est né en Italie sur un vignoble.
OK.
Donc, tout le long de ma jeunesse, évidemment, on vivait à Montréal. On n'avait pas de vignoble à Montréal, mais il faisait son propre vin comme tout bon Italien de Montréal. Donc, il m'a appris au fil du temps comment faire du vin, puis ainsi de suite. Donc, ça devient une passion aussi familiale.
Est-ce que la qualité était aussi bonne à l'époque qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Elle était différente.
Et étant un ancien conseiller en ressources humaines, est-ce que vous êtes aussi touché que tout le monde par la pénurie de main-d'œuvre?
Effectivement, ça, c'est un gros défi. Puis nous, quand on a commencé, on est arrivé aussi, parce que dans le fond, on a fait l'acquisition du terrain en 2016, mais les activités ont vraiment commencé pratiquement avec l'arrivée de la pandémie. Puis à partir de ce moment-là, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, on la vit comme tout le monde, c'est très difficile. Trouver des gens, c'est une chose, mais de les garder, c'est une autre chose. Donc, parce que c'est quand même très difficile de travailler dans un vignoble. Donc, on renouvelle l'équipe pratiquement chaque année, malheureusement.
Qu'est-ce qu'il y a comme défi, justement, au niveau de vous dites que c'est très difficile de travailler dans un vignoble. C'est vraiment au
Oui.
niveau physique, au niveau de la répétition, au niveau de.
C'est un peu ça aussi. Puis également, on a eu des étés très chauds dans les dernières années. Quand on travaille à 30-35 degrés, là, la patience est moins là. Évidemment, ça vient jouer beaucoup sur la résistance physique parce que déjà, de supporter la chaleur, c'est excessif. Et en plus, le travail est physique. Donc, on est toujours au gros soleil quand il y a des journées ensoleillées, évidemment. Donc, c'est ce volet-là. Puis le volet répétition aussi, oui. Quand on se met à faire des tailles de vignes, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines.
Puis j'ai lu dans un média que vous faisiez appel à un organisme à l'organisme Plein Rayon. Est-ce que c'est encore le cas?
C'est encore le cas. On a essayé différentes approches. Au début, on a eu 6 stagiaires qui étaient supportés par la Fondation Saputo. Donc, ça, c'était intéressant. On avait un éducateur spécialisé qui était sur place. La deuxième année, on a pris 2 personnes sous notre charge.
Je vais
Puis
juste
cette année, c'est.
prendre
Oui,
une
allez-y.
seconde, si vous pouviez, dans un premier temps, m'expliquer un peu ce que c'est que Plein Rayon, justement.
Ah, d'accord. Plein Rayon, c'est un organisme où c'est des différents plateaux de travail qui est situé à Cowansville, tout près de Sutton. Donc, leur objectif, c'est de faire des plateaux de travail pour intégrer les gens avec une déficience intellectuelle sur le marché du travail.
OK.
Donc, ils développent des habiletés, des compétences, justement, à Plein Rayon, qui est une espèce de gros entrepôt. Puis, par la suite, ils cherchent des employeurs, justement, pour les intégrer sur le marché du travail. Donc, chez nous, évidemment, c'est un vignoble. Ça peut être dans différentes industries, là. Donc, ils réussissent très bien.
OK, donc c'est vraiment un tremplin, si on veut, pour acquérir les capacités de base pour après ça intégrer le marché du travail.
Exact, exact. Les capacités sociales, les capacités justement, comment se comporter sur le marché du travail, comment se comporter avec nos collègues, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment bien fait.
Puis j'imagine que c'était quelque chose qui vous touchait aussi, là, personnellement aussi de...
C'est sûr, ça m'a interpellé. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon fils le plus vieux, quand il a eu 21 ans, bien, rendu à 21 ans, il n'y a pas d'issue de secours pour eux. Donc, Plein Rayon, l'ont accueilli, ont trouvé un stage pour lui. Donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai connu Plein Rayon, qui sont à Cowansville, comme je disais plus tôt.
Puis vous disiez, bon, excusez-moi, je vous ai coupé tout à l'heure, mais je pense que c'était important de le mettre en
Ben
contexte.
oui.
Donc, vous avez eu 6 stagiaires donc via Saputo.
Dans le fond, la première année, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on avait besoin d'un éducateur spécialisé pour encadrer ces 6 personnes-là parce que c'est demandant, hein, quand c'est leur première expérience. Évidemment, nous, on avait le vignoble à gérer en parallèle.
C'était nouveau pour vous
Donc,
aussi, là, le vignoble, carrément, là.
c'était nouveau pour nous. Donc, moi, j'ai eu la chance, évidemment, de travailler chez Saputo. Puis, Saputo est une fondation. Puis, ça fait partie d'une de leurs missions d'encadrer ces jeunes-là, ces gens-là avec une différence. Donc, financièrement, ils ont supporté notre projet.
Et par la suite, est-ce que c'est quelque chose qui s'est poursuivi? Vous avez eu, comme vous dites, après, vous avez eu 2 autres, personnes.
L'année suivante, on a accueilli personnellement 2 personnes, donc qu'on supervisait, moi et José. Et cette année, on est allé avec une formule différente ils appellent ça une garde qui arrive. Ce sont à peu près 10 personnes de plein rayon qui viennent faire des corvées.
OK.
Donc, au lieu de venir de façon permanente là, sur 5 jours/semaine, ils vont venir de façon ponctuelle. Comme moi, la cédule, c'est à tous les 2 mercredis, ils vont venir chez moi. Il arrive à peu près 1 dizaine de personnes avec 2 éducateurs spécialisés.
Fait que c'est vraiment des blitz, qui sont
C'est des
faits.
blitz. Ça aide énormément parce que justement, c'est beaucoup de corvées. Donc, à titre d'exemple, quand on fait la taille, toutes les branches qu'on jette à terre, bien, ça prend quelqu'un pour les ramasser. C'est des tâches qui sont simples, mais en même temps sont essentielles. Donc, ces gens-là vont venir faire des tâches comme je viens d'énumérer.
Avec plaisir, puis j'imagine que ça les ça les
Oui, puis quand ils arrivent chez nous, là, ça fait 3 ans qu'ils viennent chez nous, donc on se connaît, là, donc c'est une belle ambiance là, quand ils arrivent chez moi.
Si vous pouviez me décrire votre vignoble en une seule phrase, ce serait quoi?
Beauté du paysage.
Ouais.
C'est la phrase qui me vient en tête, c'est quand les gens arrivent chez nous, là, ils ont comme le souffle coupé de voir la montagne de Sutton parce qu'on a un des plus beaux points de vue de la montagne de Sutton à partir de notre vignoble.
Ouais, j'imagine que ça doit être assez vallonneux, ça doit bouger ou
Tout à fait, tout à fait. On a plusieurs coteaux, donc on voit les vignes à partir de la terrasse là, de la boutique de vente. Au vignoble, on voit toutes les vignes là, justement là,
ça
suivre
descend, puis.
les coteaux. Puis après ça, au fond, on voit la montagne là, dans son relief le plus beau.
Puis, vous avez quoi exactement? Bon, je mentionnais plus tôt que vous aviez 14 000 vignes. Est-ce que c'est bien le cas? Le nombre est bon,
Oui.
à peu près.
Il est à peu près, oui.
Vous
Donc,
avez.
à 14 000 vignes, dans le fond, nous, on a 8 variétés,
OK.
différentes variétés. On a beaucoup de vinifera. Donc, vinifera, pour moi, c'est des pinots gris, c'est des pinots noirs, chardot. Et on a quelques rustiques. Puis, on a 2 variétés de test. Comme tantôt, je parlais du côté paternel italien. On a un test pour du Sangiovese, qui est pas beaucoup planté au Québec. Puis on a un test pour le Nebbiolo qui pousse dans la région du Piémont, au nord de l'Italie. Le Sangiovese, je pense pas qu'on va réussir, mais le Nebbiolo, ça s'annonce bien. À ma connaissance, il y a peut-être une autre personne qui a fait ce test-là au Québec.
OK, donc c'est très rare. Puis quand vous parlez de test, on parle de combien de vignes?
On a eu 50 pieds, 50 pieds de vigne pour
50 pieds de vignes.
tester.
Et
Oui, oui.
ultimement, on embouteille combien de bouteilles avec 50 pieds de vignes?
Tout au plus, là, on pourrait faire une cinquantaine de bouteilles maximum, là.
Donc on
Ouais.
parle de cuvée très spéciale. Et
Ah, tout à fait. Ça va être une cuvée maison, ça.
Et brièvement, et très brièvement, là, mais c'est quoi les étapes exactes pour la vinification?
Évidemment, ça part du champ. Donc, c'est la récolte, les vendanges qu'on va commencer sous peu. Après ça, c'est tout de séparer la rafe avec la baie de raisin. Donc, il faut tout enlever la rafe parce que c'est ça qui donnerait le goût amer si on la garderait. Si on s'en va dans le blanc, on va le presser immédiatement. Si on s'en va dans le rouge, on va le faire macérer. On ne va pas presser immédiatement. On va l'envoyer entier dans des cuves. Je reviens au blanc. Une fois que le blanc est pressé, il y a 3 options possibles. C'est soit qu'on l'envoie dans des cuves d'inox, soit qu'on l'envoie dans de la barrique de chêne. Ou nous, on a opté également pour des amphores.
OK.
Il n'y a pas beaucoup de monde aussi qui a des amphores au Québec. C'est des gros pots de terre cuite, si on veut. C'est des grosses cuves de terre cuite, comme les Romains utilisaient dans la Rome antique ou même dans la Grèce antique. Donc,
Oh.
c'est pour ça que si vous lisez un petit peu là, sur notre site, vous voyez, c'est des méthodes modernes avec des méthodes
Ah,
ancestrales.
ça.
L'amphore donne beaucoup de souplesse au vin.
OK. Puis est-ce que vous dites que c'est quelque chose qui est quand même assez rare, des gens qui utilisent. Les amphores?
À ma connaissance, on est moins de 10 vignobles au Québec qui utilisent des amphores. C'est tout à fait nouveau ou c'est un renouveau d'utiliser ça. Je dirais que ça doit faire au maximum 5 à 10 ans, même pas 5 ans qui sont arrivés au Québec, là.
Puis est-ce que ces produits-là, par exemple, bon, est-ce que les barriques, les amphores, est-ce que c'est tous des produits qui viennent d'Europe, que vous devez commander d'Europe, ou c'est des produits qui peuvent être créés aussi au Québec?
D'après moi, ça pourrait être créé au Québec, mais l'expertise est tellement importante pour ces enfants-là. Ça vient de la France, il y en a qui viennent de la France, il y en a qui viennent d'Italie. Donc, moi, les achats que je fais sont faits à partir de l'Europe.
OK. Puis combien de temps est-ce que ça prend entre le moment où on plante une première vigne et on produit une première bouteille?
Oui. Moi, je dirais, là, ça prend 3 et 5 ans. Évidemment, au bout de 3 ans, on va avoir un peu de fruits au niveau de la vigne, là, mais on ne parle pas d'une grande quantité. Donc, je dirais, nous, on a planté en 2017 nos premières vignes et notre première cuvée a été en 2020.
OK, fait que c'est quelque chose qui est de très longue
Excusez,
haleine.
en 2020,
En
notre première
2020.
cuvée, oui. Oui.
Donc, c'est quelque chose qui est de très longue haleine. On peut pas s'improviser du jour au lendemain viticulteur, là.
Non, puis ça prend la capacité aussi financière de supporter un 5 ans sans aucun revenu. Parce qu'évidemment, si je vous parle de cuvée 2020, là, on va prendre un 10 à 12 mois de vieillissement. Donc, la bouteille va se trouver sur le marché, chez le commerçant ou à notre boutique de vente en 2022.
OK.
Donc, à ce moment-là, en 2021, excusez-moi,
2021,
si on... Oui.
ouais. Et
Donc, à ce moment-là.
on parle de combien de donc vous en êtes à votre deuxième cuvée?
J'ai fait deux cuvées actuellement. J'ai fait une cuvée 2020 et une cuvée 2021. Et avec les vendanges qui s'en viennent, ça va être notre troisième cuvée, la cuvée 2022.
Puis est-ce que vous notez une accélération au niveau du nombre de bouteilles que vous pouvez faire? Est-ce que
Oui, parce que plus que le plant est en maturité, supposons que la première récolte, j'ai 250 grammes par plant. L'année d'après, je vais avoir à peu près 500 grammes. Et ça pourrait atteindre jusqu'à 1 kilo
OK.
par plant pour les vinifera.
OK.
Donc, la première cuvée, on a produit environ 6 000 bouteilles. Et cette année, l'année 3, cuvée 3, on devrait être en mesure de produire environ 20 000 bouteilles.
OK, donc c'est plus que tripler la quantité là,
Oui,
pour
absolument.
le même nombre de vignes.
Pour le même nombre de vignes, sauf que là, je suis arrivé au rythme de croisière.
OK.
Donc, la vigne normalement produira pas plus, là.
Ce qui est quand même une excellente nouvelle, j'imagine, quand on attend ce rythme de croisière-là depuis
Absolument,
plusieurs années.
absolument.
D'après vous, est-ce qu'on assiste à une accélération dans l'offre des produits viticoles québécois, comme on voit dans les microbrasseries, dans les distilleries? C'est plusieurs éléments qu'on ne voyait pas il y a plusieurs années. Et de plus
Oui.
en plus, les vins québécois sont de plus en plus disponibles un peu partout, là. Est-ce que c'est quelque chose que vous dénotez?
Moi, ma connaissance, évidemment, la demande est très grandissante avec toute la sensibilisation qu'on a eue depuis le début de la pandémie. Par contre, l'offre, elle ne peut pas suivre la demande actuellement, selon mes connaissances, parce que avec ce que je viens de décrire par rapport au monde de la bière, ouvrir une brasserie puis produire une bière, ça peut se faire beaucoup plus rapidement qu'embouteiller une bouteille de vin parce qu'on parle d'un délai à peu près de 3 à 4 ans avant de produire notre première bouteille de vin. Et le raisin doit provenir de notre territoire, de notre terrain, de notre vignoble. On ne peut pas acheter de raisin dans d'autres provinces canadiennes.
OK.
Donc, quelqu'un qui voudrait aller en croissance, comme dans le domaine de la bière, acheter de l'orge, ça peut se faire probablement dans d'autres provinces, mais pas dans le domaine du vin.
OK. Puis il n'y a pas moyen. Puis ça fait que donc vous ne pouvez pas faire des mélanges. Il faut nécessairement que ce soit poussé sur votre territoire.
Ça doit être poussé sur mon territoire et j'ai le droit d'acheter l'équivalent de qu'est-ce qui pousse sur mon territoire à un autre vignoble québécois.
OK.
Donc, à titre d'exemple, si je produis 1 000 kilos, je pourrais acheter 1 000 kilos chez un autre vigneron. Sauf que le raisin est quand même relativement rare là, actuellement parce que justement la
La
demande est
demande est
tellement
tellement forte.
grandissante que la plupart des gens vont vinifier leur propre raisin.
Puis pendant plusieurs années, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, les produits québécois étaient boudés par les consommateurs. Il y avait souvent la réflexion aussi que bon, des vins blancs, ça passait encore, mais les vins rouges, québécois, ça ne fonctionnait pas. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que les assemblages se sont raffinés ou c'est les palais qui se sont un peu plus habitués à notre produit?
Alors moi j'ai la croyance, là, c'est vraiment l'expertise qui s'est développée. Tu sais, si on retourne des années 80, on n'avait pas d'expertise au Québec. Aujourd'hui, on a une belle expertise québécoise. Puis moi, je suis entouré de deux mentors. Donc, j'ai une personne qui m'encadre pour le champ, puis j'ai une personne qui m'encadre pour la vinification. Selon moi, on ne peut pas s'improviser fabricant de vin, là, du jour au lendemain. On a besoin d'avoir un partage de connaissances et d'expertise. Moi, la personne qui m'encadre a un minimum de 30 ans d'expérience, là.
OK. Donc les produits sont de plus en plus de qualité, selon vous.
Ah, tout à fait, tout à fait. On a de magnifiques vins au Québec. Moi, les vins qu'on produit actuellement, les clients qui viennent à la boutique sont grandement surpris de la qualité du vin, même si c'est des jeunes vins qui ont 1 an. Ils sont vraiment épatés là, à chaque fois qu'ils dégustent nos vins.
Puis généralement, vos assemblages, ça ressemble à quoi? Vous avez en ce moment, vous avez 6 produits, je crois.
Exact. On a 3 blancs, 3 rouges. Je dirais, On a deux blancs en monocépage, donc un pinot gris, un chardonnay. Puis, on a un assemblage de blancs. Puis, dans le rouge, on a un pinot noir, qui est un monocépage du Cabernet Franc, qui est relativement rare au Québec, puis un assemblage de rouge.
Puis j'imagine que tout ça, c'est... Est-ce que ça a été difficile aussi de... On parlait tout à l'heure que vous avez beaucoup de vinifera. Est-ce que
Oui.
c'est, au niveau de la complexité à faire pousser, est-ce que c'est plus complexe, plus de travail, j'imagine aussi, là?
Le choix était facile à faire pour les cépages parce que c'est des cépages qu'on adore. Par contre, oui, c'est complexe. Juste donner un exemple. Des vinifera, il faut les couvrir pour l'hiver parce que ça ne passera pas le froid du Québec.
OK.
Donc, juste donner un ordre de grandeur, quand on met des couvertures par-dessus de géotextile, on met 18 000 agrafes manuellement pour tenir les couvertes. Fait que juste ça, là, ça rend les choses très, très complexes. Puis évidemment, au printemps, il faut faire l'exercice
L'exercice
inverse, enlever
inverse.
les agrafes, enlever les géotextiles, et ainsi de suite. Je dois avoir à peu près 4 km de géotextiles à poser.
Est-ce que c'est de ce que j'entends là, bon, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de d'huile de coude, comme on dit.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous vous attendiez en se lançant dans cette aventure-là, il y a quelques années?
Je savais que c'était des étapes à faire. De le savoir puis de le faire, c'est deux choses différentes. Parce que justement, les fenêtres de temps sont tellement courtes. Donc, moi, la montagne est sublime, mais elle m'emmène beaucoup de fois aussi à l'automne. Donc, notre fenêtre pour mettre ces toiles-là est tellement courte que là, ça nous prend de la main-d'œuvre, des plus grosses équipes, ainsi de suite. Ça, c'est difficile. Puis si on n'est pas capable de faire ça dans cette fenêtre-là, bien là, on met à risque nos plans, là. Donc, c'est des gros défis.
Puis pour en revenir un peu aussi justement au vin québécois, j'imagine aussi que vous avez noté la présence accrue dans nos médias d'œnologues, de sommeliers. Est-ce que vous croyez que c'est également pour quelque chose dans ce développement-là du goût du vin québécois?
Moi, je pense que ces gens-là, c'est des très bons ambassadeurs, tu sais, pour nos vins. Il y a des excellentes personnes, là, justement, qui ont servi d'ambassadeurs pour nos vins. Ça leur a donné une notoriété à nos vins du Québec. Les goûts suivent. Pour moi, là, les goûts sont excellents. C'est vraiment la notoriété qu'il fallait donner à nos vins du Québec que ces ambassadeurs-là ont réussi à nous donner.
Puis, par rapport à ça, par rapport à la présence des vins québécois, on l'a vu dernièrement, ça fait déjà quelques années, là, mais bon, au niveau de la SAQ, il y a eu une emphase un peu qui a été mise sur mettre de l'avant les vins québécois et tout. Mais comment ça fonctionne quand on est un plus petit joueur dans les épiceries et compagnie, épiceries fines? Comment ça se développe?
Oui, bien, je vais répondre à deux niveaux à votre question. Bien, premièrement, la SAQ, selon moi, pourrait faire beaucoup plus parce que si vous allez en Nouvelle-Écosse ou si on va en Ontario, aussitôt qu'on rentre dans un équivalent de la SAQ, c'est toujours les vins locaux qui sont prédominants. À la SAQ, il faut pratiquement chercher la section. T'sais, moi, je pense que de ce côté-là, on pourrait faire beaucoup mieux. Et au niveau des épiceries fines, ben, c'est du développement, c'est du un à un. Donc, il faut communiquer avec chacun des propriétaires. C'est souvent des propriétaires uniques. Et la distribution doit être faite strictement par le propriétaire ou un de ses employés.
OK.
Donc, ça c'est un grand défi parce qu'évidemment, moi, je ne peux pas développer tout le Québec parce que si moi, je suis souvent dans la région de Montréal, donc je vais développer surtout le secteur de Montréal. Mais par contre, tout le côté Sherbrooke, tout le côté je voudrais aller en Gaspésie ou autre, c'est impensable pour moi, là.
OK, parce qu'il faut vraiment que ce soit vous ou un employé qui doit procéder à la livraison. Ça ne peut pas être un réseau de distribution.
Non, la réglementation est faite ainsi, là, ça ne peut pas être un réseau de distribution. Il faut absolument que ce soit quelqu'un là, qui soit moi ou un
OK.
employé. À titre d'exemple, j'ai souvent un ami là, qui vient me visiter, puis il reste dans la région de Saint-Hilaire. J'ai quelques clients Saint-Hilaire. Je n'ai même pas le droit d'y demander est-ce que tu pourrais amener des caisses pour moi là, pour tel magasin. Là.
OK.
Ça serait un geste illégal.
OK. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres des choses comme ça qui posent des problématiques par rapport aux petits viticulteurs?
Oui, ben, on a beaucoup de contraintes comme artisan. Oui, j'ai le titre de vigneron artisan. Par contre, au niveau des équipements, je vais prendre juste un exemple. Moi, j'ai un pressoir que j'utilise à peu près 4 jours par année. Je n'ai pas le droit de partager le pressoir avec quiconque là, qui est vigneron au Québec. Puis on parle d'un équipement. Moi, j'ai acheté l'équipement moyen qui coûte à peu près 40 000 $. Donc, pour garder ma licence de vigneron artisan, je dois absolument avoir tous mes équipements à moi, même si j'utilise à peu près 4 jours par année.
OK.
Donc, ça, c'est financièrement, ça met beaucoup de poids. Puis,
Fait qu'il peut pas avoir une. Par exemple, j'ai juste dans la tête des styles coopératives de vignerons artisans, là. C'est pas quelque chose qui serait envisageable dans la réglementation actuelle, là.
non, puis c'est sûr que si on pourrait avoir ce style d'approche-là, ça serait très favorable, justement, du point de vue financier, parce que je reviens encore avec l'exemple du pressoir. Un pressoir, on pourrait facilement se le partager entre 2, 3 personnes. Donc, il y a beaucoup de contraintes comme ça. Les règlements aussi auraient besoin aussi d'être modernisés. Et l'approche aussi, l'approche soit avec la régie des alcools et ainsi de suite, elle pourrait être beaucoup plus développée en partenaire. Donc, on est beaucoup dans un mode de surveillance actuellement. T'sais. Puis, on n'a pas beaucoup de ressources au billard. Moi, je suis souvent seul avec José. Et récemment, moi, j'ai eu la visite de la Régie des alcools. Il se présente de façon ponctuelle. Puis, même si on est en train de faire une tâche, il faut tout lâcher pour faire la visite puis l'inspection avec eux. T'sais. Moi, le message que j'ai passé aux inspecteurs, puis c'est pas eux autres qui ont fait les règlements, mais ça serait tellement le fun si on pouvait travailler en partenaire puis que vous soyez là pour me donner des trucs pour être meilleur au lieu d'arriver comme un peu comme si vous étiez de la police qui vient surveiller si je fais bien les choses. T'sais.
Ouais, d'être un
Oui, il y a
chien de
probablement
garde.
eu d'abus dans le passé. Mais en même temps, il ne faut pas que faire porter le chapeau à tout le monde. T'sais. Moi, je trouve qu'on aurait avantage comme société de travailler comme ça.
Ben, puis surtout avec le développement, j'imagine plus il va y avoir de vignerons artisans, justement, plus il va peut-être falloir revoir un peu des lois qui doivent dater quand même, là.
Tout à fait, tout à fait.
J'aimerais aussi vous parler un peu de l'histoire exceptionnelle qui vous est arrivée il y a pas si longtemps encore, là. On en a déjà traité dans la terre de chez nous, mais j'aimerais qu'on puisse un peu la relater pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre printemps 2021?
Ben, dans le fond, le printemps 2021 a été assez critique pour notre famille. Malheureusement, c'est au mois de mai 2021, mon fils, mon plus jeune, a eu un grave accident. Donc, il était pratiquement. C'était très sérieux, très, très, très sérieux. Puis, moi, j'étais nouveau dans la région. Comme je disais tantôt, je suis une personne de Montréal, José également. Et j'ai reçu un appel, ainsi de suite, d'un bon ami je vais le nommer Stéphane Chevigny, puis il m'a dit, as-tu besoin d'aide, Martin? Puis j'ai dit, non, non, ça va aller, c'est mon approche à moi. Le lendemain, mais mon fils, il était aux soins intensifs, là, t'sais, à l'hôpital. Le lendemain, Stéphane a contacté différents amis, dont Robert Transport, j'oublie son nom. Michel Robert de Robert Transport, qui a le vignoble
Quel vignoble,
Côte-aux-Rougemont.
oui.
Et lui a fait appel à tous ses collègues, dont Charles-Henri de l'Orpailleur, du côté du Château de Cartes, ainsi de suite. L'après-midi, j'avais la visite de Charles-Henri qui est venu voir chez moi, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré, mes besoins, évaluer les ressources qu'on avait besoin. Et le lendemain matin, ils sont arrivés 24 personnes expérimenté chez
Donc.
nous de 5 ou 6 vignobles différents. Puis, à la fin de la journée, j'ai dit, écoutez, j'aimerais beaucoup dédommager ces gens-là parce que je sais que vous devez les payer. T'sais. Puis on m'a répondu, va prendre soin de ton fils, nous autres, on va s'occuper de la paye de nos employés. T'sais.
Wow.
Fait qu'en 24 personnes, en une journée ou deux, ils ont fait l'équivalent de qu'est-ce que ça m'aurait pris en 3 semaines.
C'était un moment critique aussi, je crois que c'était pour la taille des vignes.
Exact. Et puis, si on ne fait pas la taille des vignes au bon moment, qu'est-ce qui arrive? C'est que le bourgeon va sortir. Et s'il y a un foie qui arrive, on va perdre une grosse partie de la récolte. Donc, il faut faire absolument cette tâche-là. Donc, c'était assez impressionnant de voir l'élan de solidarité qu'on a eu sans connaître ces gens-là. Puis, donc, ça confirme qu'on n'est pas des compétiteurs, là. On est des
Oui,
partenaires
c'est ça. Surtout que
entre nous.
vous étiez un nouveau venu. Des fois, on voit arriver l'autre avec un œil, des fois, un peu de côté, là. Mais là, j'imagine que
Oui.
ça doit faire chaud au cœur d'avoir cet élan de générosité-là, là.
Oui, absolument. Puis même si je reviens en 2016, avant d'acheter le terrain, justement, j'avais cette inquiétude-là. Il y a un vignoble juste à côté de chez moi qui est le domaine Breezy. Moi, je suis allé voir le propriétaire qui s'appelait Richard. Je dis, si on achète le terrain, comment tu vois
Comment tu
notre
vois
venue?
ça?
Ben oui, lui, j'étais surpris. Il me répond, il dit, ça va être juste parfait. On va être deux, on va pouvoir s'aider, on va pouvoir travailler en équipe. Donc, moi, justement, quand j'habitais à Montréal, de venir m'occuper du terrain 2, 3 heures par semaine, le soir, c'était impensable. Puis c'est toujours Richard qui est venu m'aider. Puis à l'époque, quand il venait m'aider, je réalisais pas la charge de travail que lui-même avait. Donc aujourd'hui, j'apprécie encore plus qu'est-ce qu'il a fait pour moi que je l'appréciais à l'époque parce que je sais c'est quoi le défi d'être vigneron.
Puis aujourd'hui, votre fils va bien?
Aujourd'hui, Johan, il va super bien. On parlait d'événements fatals, après ça, de séquelles de physiques. Puis aujourd'hui, ben, il a recommencé à jouer à softball ici, il est retourné à l'école à temps plein. Donc, il était en convalescence, je dirais, à peu près pour une période de 6 mois. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune séquelle.
Wow.
Puis, les as étaient alignés pour lui puis pour nous, là.
Vraiment, là. Est-ce
Oui.
qu'ils sont impliqués un peu dans le vignoble, justement, ou pas
Édouard,
encore?
mon plus vieux, va être impliqué quand plein rayon vient, parce que
OK.
justement, il connaît ces gens-là. Il va être impliqué également les week-ends. Johan, c'est plus quelqu'un qui va s'impliquer à l'intérieur. Donc, quand on est au niveau du vin, c'est lui qui va venir nous aider des fois, faire de l'embouteillage, mais il est quand même à l'école à temps plein.
Oui,
Donc,
c'est plus sur une base familiale, si on veut, là.
exact, exact.
Excellent. En terminant, j'aimerais ça savoir, selon vous, c'est quoi l'avenir du vin québécois?
D'après moi, on a un très bon avenir. Par contre, l'industrie puis la réglementation est tellement changeante qu'on a beaucoup d'inquiétudes actuellement. Je m'explique. C'est que dans l'air actuellement, à partir du 1er janvier prochain, on aurait une taxe supplémentaire d'environ 40 % qui serait imposée à nos vins qu'on vendrait en épicerie. Les vins qui sont en épicerie aujourd'hui, là, c'est beaucoup d'émotions. On veut acheter local. Donc, on est conscient que les gens vont faire un effort pour payer un peu plus pour acheter local. Donc, nos vins vont se situer entre 28 et 30 $ en épicerie. Donc, ça vous donne une idée, si on rajoute une taxe de 40 % sur ces vins-là, ça va être quoi le prix en tablette? Donc, on est rendu peut-être à 38-40 $. Donc, c'est sûr que pour moi, puis pour mes collègues aussi, c'est très préoccupant. Également pour les gens qui ont partie des épiceries fines sur ce modèle d'affaires-là, de savoir qu'ils vont être obligés d'augmenter leur vin de 40 %. Tout le monde est inquiet actuellement pour ce volet-là. Donc, ce serait la même réglementation qui serait imposée comme si on vendait nos vins à la SAQ au niveau de la taxation. On m'a dit que c'est sûr à 95 % que ça va arriver. Donc, même moi, je me pose la question, est-ce que je vais continuer la croissance du vin? Parce que si je paye une taxe de 40 % pour aller en épicerie, je vais favoriser de faire mes ventes à la boutique même, où ce que je n'aurai pas, ce 40 % %-là qui va être imposé. Donc, c'est ça l'inquiétude actuellement pour moi, puis je pense pour certains collègues de l'industrie.
Donc, l'avenir, si en fait, vous parlez de 95%, ce qui n'est pas nécessairement un bon chiffre pour vous. Par contre, pensez-vous qu'éventuellement, au niveau de l'adaptation, qu'il va y avoir, qu'on va mettre plus l'emphase sur l'agrotourisme, justement, puis les ventes sur place.
Ben, pour moi, c'est sûr que si on applique cette taxe-là, c'est la seule avenue que je vois là, t'sais, pour notre développement, parce qu'actuellement, la vente en épicerie représente environ 50 % de nos ventes. Donc, à partir du 1er janvier, ça voudrait dire qu'il faudrait que je trouve une façon plus créative pour aller chercher ce
De
pourcentage de ventes-là.
remplacer ce 50 %
Oui.
là, ouais.
Évidemment, il y a des discussions actuellement où ce qu'on parle de ristourne potentielle, un peu comme la taxe d'assises qui était arrivée à dernière minute au mois de novembre dernier. On parle de ristourne peut-être de 50 %, mais même si on avait ces ristournes-là, on parle quand même d'une hausse de 20 % du prix de la bouteille, là.
Mais dans ce cas-là, on va espérer que les gens viennent vous voir. À quel endroit exactement êtes-vous situé si jamais les gens veulent venir vous...
On est situé tout juste à l'entrée du village de Sutton. Donc, on est au 160 chemin Mudgett, qui est perpendiculaire à la principale. Donc, quand on arrive de Cowansville puis on arrive à Sutton, la signature de Sutton, c'est notre vignoble. Des deux côtés de la rue, on voit nos rangs de vignes là, qui sont élancés là, dans le vignoble.
Puis est-ce qu'il y a des moments dans l'année où c'est plus intéressant de venir vous voir? J'imagine que là, on est à l'automne, là, les couleurs approchent, donc.
Bien, depuis le week-end dernier, c'est le début des festivals de couleurs à Sutton. Donc, évidemment, là, on a beaucoup plus d'achalandage, mais je dirais les amateurs de vin, là, ils viennent nous voir 10 mois par année. Nous, on a ouvert au mois d'avril, on a fermé au mois de décembre. On a des visiteurs là, tout au long de cette période-là. Là. Mais évidemment, c'est le gros boom là, va être dans les prochaines semaines.
Parfait, ben excellent. Merci beaucoup. On vous souhaite longue vie au domaine Giroir et je vous remercie beaucoup pour votre temps.
Ben, merci beaucoup, mais ça c'est grandement apprécié.
Merci. Voilà, c'est dans la boîte pour cet épisode du Son de la Terre. Je veux prendre un instant pour remercier mes invités, Myriam Laplante et Martin Giroir, pour leur participation et pour leur générosité. J'en profite également pour souhaiter un bel automne à tous les agriculteurs à l'écoute. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire au balado@laterre.ca ou encore à nous envoyer un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.